Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Diffusé tous les jours de 10h à 11h et du lundi au vendredi et de juillet à août ou d'août à juillet, Les Nouveaux Chemins sont réalisés par Midia Portis-Guérin avec Jean-Richard Dufour à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Marine Boisté, Adèle Van Rett. Adèle, qui tout à l'heure vous parlera du fameux rêve de l'injection faite à Irma que raconte Freud dans son interprétation des rêves. Et ce n'est pas innocent, car c'est le début pour nous ce lundi de la seconde semaine de l'année sur le bac philo. Dans les nouveaux chemins de la connaissance, une semaine en partenariat comme chaque année avec Philosophie Magazine, dont l'indispensable hors-série sur le bac philo est toujours disponible en kiosque. Une semaine offerte à nos auditeurs bacheliers et à leurs cadets de première et de seconde qui sont chaque année plus nombreux à écouter les nouveaux chemins. Une semaine d'hommage également aux professeurs de terminale qui répandent et enseignent la philosophie et dont 5 d'entre eux ont accepté de nouveau de passer eux-mêmes l'épreuve du bac devant leurs propres élèves. Une semaine enfin pour tous les auditeurs des chemins qui n'ont pas besoin de passer le bac dans quelques jours pour se poser la question de savoir si l'action politique doit être guidée par la connaissance de l'histoire ou si l'on peut penser la mort ou encore, comme on va se le demander tout de suite avant d'en parler avec Adèle, si l'on peut distinguer les rêves de la réalité. Bonjour Guillaume Durand, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Peut-on distinguer les rêves de la réalité? C'est la première question de la seconde semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent, comme c'est la tradition, au bac philo. Peut-on distinguer les rêves de la réalité? Vous êtes Guillaume Durand, provisoirement dans la position de l'élève, du candidat bachelier. Vous avez ce sujet et en plus vous l'avez choisi. Comment faites-vous? Comment réagissez-vous?
Alors d'abord, quand on me pose, donc quand je suis devant un sujet de dissertation, le premier écueil à éviter, je crois, pour le candidat, c'est d'y répondre par oui ou par non de manière immédiate. Donc j'ai d'abord, bien sûr, analysé les termes de la question au brouillon avant de me lancer. Et puis, bien sûr, pour chercher le problème, la problématique. Et donc, cette préparation, bien sûr, je ne vais pas la faire devant vous, hein, mais elle m'a permis, si vous voulez, de traiter ce sujet. Alors, juste quelques remarques sur l'analyse des termes. Vous voyez que on a le verbe « pouvoir », « peut-on distinguer ?». Donc, d'un côté, bien sûr, il va falloir traiter de la possibilité et de la capacité. Avons-nous la capacité de les distinguer?
Oui, parce qu'ici, le verbe « pouvoir » n'est pas à employer, à comprendre en son sens juridique. C'est-à-dire, c'est pas « a-t-on le droit de distinguer le rêve de la réalité ?» C'est « et sommes-nous en capacité de le faire ?»
Sommes-nous en capacité de le faire? Mais en même temps, il me semble que le deuxième sens du verbe « pouvoir », c'est peut aussi conduire justement à cette question tout de même du droit, voire même de la morale. Vous voyez, quand je dis « puis-je ouvrir une porte ?», c'est bien « est-ce que je suis capable de l'ouvrir ?» Mais c'est aussi « ai-je le droit de l'ouvrir ?» Et donc, peut-on distinguer? On pourra jouer quand même sur ce double sens, peut-être. D'abord, est-ce que j'ai la capacité de? Et si j'en ai la capacité, ou si j'en ai pas la capacité, ne dois-je pas les distinguer? Et vous allez voir que je reviendrai là-dessus, mais il me semble, finalement, ça va m'indiquer déjà un petit peu une orientation. C'est-à-dire que s'il est impossible de les distinguer, je défendrai qu'on doit les distinguer. Finalement, c'est un choix éthique et moral que de les distinguer. La distinction, on y revient.
C'est-à-dire juste, oui. S'il est techniquement impossible, on va voir dans quelle mesure c'est ou ça n'est pas le cas, s'il est techniquement impossible de faire la différence entre le rêve et la réalité, alors il est en un sens, je mets le mot entre guillemets ici, moralement nécessaire.
Exactement.
De le faire.
Voilà, ce serait une hypothèse finalement nécessaire pour vivre avec les autres, ou en tout cas bien vivre, voire même un devoir moral. Hein, c'est ce que j'essaierai de montrer. Alors la distinction, vous voyez, distinction, distinguer, c'est séparer nettement. On pourra jouer sur la différence entre, la distinction entre différence de degré et différence de nature. Et on y reviendra tout à l'heure, mais est-ce que, si vous voulez, entre rêve et réalité, tout les oppose, différence de nature, tout les sépare, rien à voir? Ou est-ce que, finalement, et je crois que c'est l'enjeu de la question, montrer qu'il y a une différence de degré, c'est-à-dire...
Comme deux choses différentes peuvent distinguer, tout simplement.
Voilà, et qu'il puisse y avoir des liens entre ces deux ordres. Et puis...
Pour bien comprendre ce que vous dites, c'est-à-dire que la question que vous posez autour du verbe de distinguer, et la question de savoir si le rêve et la réalité s'opposent quasiment comme le noir et le blanc, comme deux registres totalement hétérogènes, plus exactement, deux antipodes, ou bien s'ils sont commensurables, c'est-à-dire s'ils s'inscrivent dans un rapport comparable, ou si on peut avoir avec l'un et l'autre un rapport comparable.
Tout à fait. Mmh. Et ça nous permettra de montrer et de penser, si vous voulez, les relations entre les rêves et la réalité, des rêves à la réalité, à ce qu'on appelle la réalité au rêve. Et il me semble qu'il faut poser une différence de degré si on veut pouvoir penser ces relations entre ces deux ordres. Bon. Et puis enfin, donc, bon, les rêves et la réalité, bon, je les définirai bien entendu dans le cours de la dissertation, mais déjà quand même une précision.
Pluriel et singulier.
Voilà, le pluriel et le singulier, très important. On m'indique déjà effectivement une opposition entre les rêves qui sont subjectifs, multiples, privés et qui sont pluriels, avec la réalité qui est censée être bien sûr une, objective, etc. Donc on a déjà l'opposition, on m'indique déjà un petit peu ce que je vais pouvoir traiter dans ma première partie.
C'est-à-dire que l'emploi du singulier présume que la réalité est la même pour tous, alors que les rêves sont le propre de chaque individu rêvant.
Voilà, on est déjà, si vous voulez, dans l'affirmation d'une différence de nature et d'une opposition. Et ce qui est très important, c'est peut-être aussi la distinction entre les rêves, c'est-à-dire les rêves que cette suite de représentations, d'images, disons, de notre esprit vagabond ou sommeillant, enfin, durant le sommeil, et puis le rêve, le deuxième sens quand même sur lequel on pourra travailler.
La chimère,
le désir, c'est-à-dire le rêve, oui, construit à l'état de veille par l'imagination, par exemple, ou le désir qu'on voudrait se voir réaliser à tout prix dans l'avenir. Bon, on pourra jouer aussi sur, vous voyez, sur cette distinction.
Juste encore un point, pour obtenir la problématique, ce travail liminaire que vous faites, est-ce qu'on peut le caractériser au fond comme une façon de faire surgir tous les, je mets le mot entre guillemets, tous les préjugés qu'implique une question, c'est-à-dire tout ce qu'une question présuppose. L'exemple du pluriel et du singulier est particulièrement parlant. Dire les rêves et dire la réalité, c'est pas seulement mettre un pluriel face à un singulier, c'est aussi renvoyer d'un côté à une intimité et de l'autre à une intimité donc singulière, irréductible, celle des rêves, et de l'autre côté à une objectivité qui transcende justement toute appartenance singulière à un individu.
Tout à fait. L'analyse des termes permet de mieux saisir le sens de la question, de mieux saisir finalement l'enjeu de la question, le problème, de la reformuler cette question pour en rechercher bien sûr tous les enjeux, tous les tenants et tout ce vers quoi finalement ce que je vais devoir travailler. Hein. Alors attention, il ne faut pas tomber non plus dans l'analyse, si vous voulez, qui perd le sens de la question. Hein. Donc il faut analyser.
L'analyse d'Héridienne du sujet de terminal.
Voilà. Hein, ouais. Et donc il faut à un moment donné, bien sûr, pour traiter la question, synthétiser hein, et donc reformuler la question en la traitant. Bon, c'est ce qu'on va faire maintenant.
Et alors donc du coup, il faut obtenir une problématique,
alors,
un fil conducteur.
Il faut donc notre problématique et si vous voulez, je partirai en fait d'une entrée en matière de cette histoire du penseur chinois Zhang Zi du 4e siècle avant Jésus-Christ, qu'on appelle le rêve du papillon. Hein. Donc c'est cette histoire, un jour si vous voulez, le philosophe donc, s'endort dans un jardin, dans un beau jardin fleuri, et puis il rêve qu'il est un papillon qui vole de fleur en fleur, et puis ce papillon s'endort. Et ce papillon fait à son tour un rêve, il rêve qu'il est Zhang Zi. Et à ce moment-là, Zhang Zi se réveille. Est-il alors, c'est la question qu'il se pose, est-il un homme qui vient de rêver qu'il est un papillon, ou est-il un papillon qui rêve qu'il est un homme ? À cette question, finalement, est-ce qu'on peut répondre ? Est-ce que je ne suis pas, est-ce que je ne suis pas en train de rêver maintenant ? Qu'est-ce qui me permet donc de distinguer les rêves de la réalité ?
Donc, à quel titre la conscience que j'ai de moi-même prouve-t-elle que je ne suis pas le rêve d'un autre ?
Exactement. Et ce qui caractérise donc le rêve, c'est bien l'illusion de réalité qu'il suscite. C'est-à-dire, j'ai conscience de mon rêve, mais je n'ai pas conscience que je suis en train de rêver. Donc on voit bien que si tous les opposent rêve et réalité, si à l'évidence, on dit souvent, on ne doit pas prendre ses rêves pour la réalité, que ce serait dangereux que de les confondre, que ce serait même immoral que de soutenir, par exemple, que le récent tsunami au Japon n'est qu'un rêve. En même temps, l'expérience que je fais de mes rêves, c'est l'expérience d'une confusion, c'est l'expérience en tout cas d'une illusion. Donc la question est de savoir effectivement, eh bien, quels sont les critères qui vont nous permettre, et y a-t-il bien sûr des critères objectifs, théoriques mais aussi pratiques qui nous permettent de distinguer donc ce qui relève des rêves et ce qui relève de la réalité. Il faut aussi soutenir, dans cette introduction, remarquer que nous rêvons de choses réelles, donc que la réalité influe sur nos rêves, dans leur contenu en tout cas, que nous avons le sentiment de vivre certains de nos rêves, dans l'impression de déjà-vu par exemple, et enfin que nous réalisons certains de nos rêves. Notre rêve est alors devenu réalité.
On pourrait peut-être encore ajouter un élément, vous avez parlé du tsunami tout à l'heure. Il est évidemment indécent de dire « tout ça n'est qu'un rêve ». Autrement dit, ça n'existe pas. Tout ça n'est qu'un songe. En revanche, il est beaucoup plus intéressant et pertinent de dire « c'est un cauchemar ». Ce qui renvoie à la fois au fait que ce qu'on vit est épouvantable et qu'on le vit vraiment, et aussi que c'est tellement réel que ça en devient irréel. Hein. Que quand on voit la vague arriver aux informations ou sur Internet et qu'on regarde cette vague noire déferler sur une ville côtière du Japon, on a une impression d'irréalité. D'ailleurs, la réaction en général, c'est de se dire « mais c'est pas possible ». En d'autres termes, ça n'est pas réel.
Comme devant les attentats du 11 septembre, hein, c'était notre réaction, la réaction de tous. Hein. Ce n'est qu'un cauchemar, c'est pas possible, ce n'est pas réel. Alors, vous voyez, il y a quand même quelque chose d'indécent là-dedans. Puis c'est quand même une négation de ce qui arrive, c'est quand même une négation de l'événement. Hein. Donc ça nous permet d'une certaine manière, une certaine forme de, en tout cas d'éviter la douleur. Peut-être pas une satisfaction. Alors bon, vous savez aussi ce que Freud dit du cauchemar, hein, que c'est une forme de réalisation d'un désir aussi, hein, le cauchemar, hein, non voilé en tout cas. Et c'est ça qui nous angoisse. L'angoisse, c'est une forme de refoulement, si vous voulez. Hein. On croit qu'on a peur, mais en fait, on fait l'expérience d'un désir, bon, non voilé.
Allons vers la problématique, la synthèse de tout cela.
Donc s'agit-il d'une différence de nature entre les rêves et la réalité ? Mais qui nous permettrait donc pas de penser les liens entre les deux, de penser finalement eh bien, cette expérience de la confusion, hein, ou s'agit-il plutôt d'une différence de degré ? Quels sont donc nos critères de distinction ?
Donc votre problématique repose sur l'alternative, différence de nature, différence de degré, c'est les deux sens de distinguer.
Voilà. Et est-ce que ces distinctions permettront de lever les doutes ? Et enfin, même si ces distinctions... cette distinction est difficile, voire impossible, et c'est ce que j'essaierai de soutenir, en tout cas d'un point de vue théorique, eh bien, est-ce qu'on ne doit pas les distinguer ? J'essaierai de montrer que, finalement, la distinction est finalement un choix éthique, voire même un devoir moral.
Guillaume Durand est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce lundi. Peut-on distinguer les rêves de la réalité ? C'est le premier sujet de la semaine et donc le sujet du jour, un sujet illustré comme il se doit par la BO de Twin Peaks. Allons-y, Guillaume Durand. On a clos l'introduction, d'une certaine manière. Il faut y aller, on a bien compris. Hein. On sent bien, dans l'annonce de la problématique, quel est le plan que vous allez faire entre cette différence à faire entre différence de nature et différence de degré, et la nécessité de les distinguer. On a ici trois parties sous les yeux.
Tout à fait, et je commencerai donc par la première partie, si vous voulez bien, par l'opposition claire et distincte, par l'évidence communément partagée, une différence de nature entre les rêves et la réalité. Et puis d'abord donc une définition, des définitions des rêves et de la réalité. Alors rêver, comme le dit le vieux français, l'ancien verbe français esver, c'est pour l'esprit vagabonder, errer. Hein, c'est une suite d'images, de représentations indépendantes de la volonté et qui se produisent en particulier durant le sommeil. La réalité, c'est l'ensemble des choses qui sont, qui existent de manière objective, c'est-à-dire indépendamment de tout point de vue particulier. La réalité, elle est indépendante de moi, et j'y reviendrai tout à l'heure, elle ne dépend pas de moi pour exister, à la différence des rêves. Alors, d'abord la distinction avec le réel, entre rêve et réalité, elle apparaît comme une évidence. Une évidence, quelque chose donc qui s'impose à notre esprit et que nous faisons tous les jours, si vous voulez. D'abord dans l'action. Le candidat au bac, eh bien, se dit que s'il veut réussir son examen, il ne s'en remet pas au rêve. Il travaille dans la journée, dans ce qu'on appelle l'état de veille, et personne ne proclame « je vais apprendre cela en rêvant ». L'action suppose cette évidence. D'autre part, la loi, le droit et puis la morale supposent aussi, s'appuient sur cette distinction. On ne condamne pas quelqu'un pour ses rêves. Ce n'est pas parce que j'ai rêvé que je tuais mon voisin on va venir me chercher et me juger. Donc le jugement juridique, mais aussi moral, repose tout de même sur cette distinction. Alors on pourrait bien sûr se poser la question, est-ce que rêver qu'on commet un meurtre, c'est tout de même condamné, on peut le condamner moralement, mais c'est finalement une autre question. À mon sens, non. Pourquoi ? Parce que le rêve n'est pas volontaire. Bon. Et donc, pour qu'il puisse y avoir une responsabilité, il faut qu'il y ait une liberté et une volonté.
Mais quand bien même il le serait, Guillaume Durantier, quand bien même on souhaiterait consciemment, délibérément et presque ouvertement, sauf qu'on le garderait pour soi, la mort de quelqu'un, en quoi est-on condamnable pour ça ?
C'est bien tout de même un désir qui me semble condamnable moralement. On veut quand même, ou en tout cas on désire, nier l'autre, porter atteinte à sa vie. C'est vrai.
Non mais dans la mesure où on passe pas à l'acte,
on ne fait pas de victime, bien entendu. On ne fait pas de victime, mais on a tout de même ce désir. Alors je vous dis, bien entendu, c'est... Il me semble beaucoup moins condamnable moralement, j'entends.
De vouloir tuer que de passer à l'acte.
Que de passer à l'acte, bien entendu. Mais il me semble qu'il y a tout de même une condamnation morale possible. Même si elle est minimale, mais il me semble qu'il y a une condamnation morale possible. Mais bien sûr, bien entendu, pas juridique.
Bon. Alors, il ne faut pas rester là-dessus, parce que si on restait là-dessus, on serait hors sujet.
Oui, exactement.
Vous avez bien raison,
donc c'était une parenthèse. Ouais. Alors, les critères théoriques de la distinction. D'abord, les rêves, le pluriel le souligne, les rêves sont ce que Bertrand Russell appelait des objets privés. C'est-à-dire qu'ils sont multiples, ils sont subjectifs, ils sont produits par mon esprit, et ils sont liés à mon histoire. Ils sont aussi discontinus. Et ils sont souvent, le plus souvent, on va dire, incohérents. Dans le film Inception, pour savoir si je suis en train de rêver, on me pose la question suivante, enfin la méthode employée par les personnages est la suivante. Est-ce que tu sais comment tu es arrivé là où tu es ? Bon. Et finalement, à chaque fois, le personnage dit « Ah ben non, effectivement, je ne sais pas comment je suis arrivé là ». Vous voyez que le lien dans le rêve, le lien entre les événements, est confus, voire totalement absent. Bon. Enfin... La durée d'un rêve est relativement courte. Relative à mon état de sommeil chez l'adulte, par exemple, les rêves occupent 20% du temps total de sommeil, 1h30 chaque nuit, et sur une vie, en fait, nous rêvons sur une durée moyenne de 4 ans.
Oui, mais reprendre cet argument, l'argument de la durée du sommeil, de la durée du rêve à l'intérieur du sommeil, plus exactement, c'est partir du principe qu'on a déjà opéré la distinction entre le rêve et la réalité, c'est-à-dire c'est un argument rétrospectif. Il faut considérer qu'on sait déjà ce qui distingue le rêve de la réalité pour considérer que ce qu'on appelle le temps de rêve est effectivement un temps de rêve, Guillaume Durand.
C'est vrai, c'est ce que nous supposons, là nous allons dans cette opposition, et nous supposons effectivement, nous tentons quand même tout de même d'y répondre. Alors on pourrait quand même distinguer le rêve...
Ce que je veux dire, c'est que c'est un argument qui est tenu par celui qui tient déjà pour acquis la distinction entre le rêve et la réalité.
Oui, c'est vrai. Donc c'est un argument qui pourrait tomber, effectivement. Bon, pour finir, on peut ajouter tout de même que le rêve, après avoir été interprété durant l'Antiquité comme un message divin, comme une communication avec les dieux, le rêve est l'expression d'un désir pour la psychanalyse freudienne et l'expression d'un désir voilé. L'expression d'un désir de l'inconscient. Et donc, nous rêvons justement pour ne pas être frustrés par le réel. C'est un réel, justement, le réel nous empêche de réaliser nos désirs. Et le rêve, c'est justement l'expression du désir. Alors, la réalité, l'emploi du singulier nous l'indique, elle est censée être une, unique, et la même pour tous, comme vous le disiez tout à l'heure. Les rêves sont privés, et les objets réels qui composent cette réalité sont, dirait Russell, publics. Ils sont là pour tout le monde. La réalité, elle est indépendante de moi, elle ne dépend pas de moi pour exister. À ma mort, en tout cas, je le vois bien quand autrui meurt, la réalité perdure.
D'ailleurs, les gens se demandent souvent ce qui va se passer après leur mort. On pourrait, d'une certaine manière, les renseigner dessus, nous qui leur survivons. Ce qui se passe après la mort de quelqu'un, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes les rescapés de la catastrophe vécue par celui qui est mort avant nous.
Oui, la question est de savoir, bien entendu, si quand je mourrai, de la même manière, la réalité perdurera. Et c'est finalement bien la question. On pourra d'ailleurs l'intégrer, cette question de la mort. Est-ce que la mort, c'est le réveil, par exemple, dans cette question de la distinction du rêve et de la réalité? Enfin, la réalité, elle est censée donc être continue, cohérente. On peut anticiper des événements grâce à la connaissance de ses lois qui la régissent, voire même la réalité, on pourrait dire qu'elle est éternelle. La disparition de l'humanité, par exemple, n'implique pas la disparition de la réalité. Enfin, la réalité est immensément plus riche et plus imprévisible que n'importe lequel de nos rêves. Combien de fois nous rêvons un événement qui, dans la réalité, va ensuite dépasser toutes nos attentes.
Guillaume Durand, juste un point avant de continuer là-dessus, sur cette distinction entre le rêve et la réalité et sur la méthode par rapport à l'élève. Votre dissertation est infiniment plus riche que celle qu'un élève de terminale pourrait produire le jour de l'épreuve, à moins d'être vraiment un élève exceptionnel ou de vous avoir eu comme prof. Dans ces conditions, un élève qui n'a pas les... qui ne se sent pas les moyens, en fait. Comment fait-il ? Est-ce qu'il ne suffit pas pour lui, tout simplement, de pointer à les deux distinctions ? Un, les rêves sont privés et la réalité est publique.
Oui.
Et deux, les rêves sont discontinus, incohérents, irréels, alors que la réalité suit et accomplit, déploie une certaine forme de logique séparément du désir que je peux en avoir. Est-ce qu'au fond, si on ramène toutes les distinctions très importantes et très claires que vous faites, mais qu'il est difficile de mobiliser dans le temps de l'épreuve lui-même, est-ce qu'on peut se contenter de ces deux registres de distinctions pour un candidat bachelier ?
Oui, on peut, bien sûr, on peut s'en contenter. De toute façon, vous faites la synthèse de ce que je vais vous lui dire, finalement. Donc, il ne faut pas oublier aussi que le candidat a 4 heures. Hein. Bon, 4 heures, c'est tout de même assez long. Donc, on peut développer. Et puis là, vous voyez que pour l'instant, je fais des distinctions qui... finalement sont assez, que le candidat peut réussir, que les élèves peuvent réussir
à retrouver
par eux-mêmes. Hein. Je ne fais pas appel à des philosophes, à l'histoire de la philosophie, en tout cas pour l'instant. Hein. Même si on a fait appel à Russell et aux objets privés, aux objets publics.
Et même si implicitement, d'ailleurs, beaucoup de philosophes ont pris en charge les distinctions que vous faites. Mais tout il n'est pas fait. Nécessaire d'en avoir lu les textes pour
exactement,
faire cette distinction.
Exactement, il n'est pas nécessaire. On peut très bien faire une dissertation hein, sans faire de référence explicite, en tout cas, à tel ou tel philosophe. Hein. Même si finalement, il est quand même aussi, peut donner aussi de la richesse, bien sûr, à notre dissertation. Alors, j'en viens à des critères, il faut que j'avance à des critères pratiques de distinction pour au moins terminer cela. Alors, les critères pratiques de distinction, rapidement, si je prends un rêve, par exemple, imaginons que j'ai rêvé la nuit dernière que je sois venu ici, devant vous, j'ai fait ce rêve, mais je suis arrivé ici sans me rappeler comment je suis venu. Il m'arrive des événements un petit peu incohérents, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là, je me retrouve tout d'un coup au milieu d'un jardin, vers d'autres fins, vers d'autres buts, etc. Donc là, si vous voulez, il me semble que l'expérience du rêve va vérifier la théorie. Pourquoi ? Parce que l'expérience du rêve, elle est chaotique, elle est confuse, et elle est distincte de l'expérience claire, continue et cohérente de la réalité. Enfin, l'action, elle est involontaire dans les rêves, elle n'a pas d'effet prévisible. Je ne connais pas, en tout cas tout à fait, je ne maîtrise pas tout à fait les fins de mes actions. Dans la réalité, l'action, elle est plus souvent volontaire, elle est réfléchie et elle est suivie des effets visés et prévus. Hein, ce matin, je suis là devant vous, justement parce que j'ai accompli une série d'actions volontaires, intentionnelles, et dont les effets, correspondaient bien sûr aux relations de causalité que j'ai mis en place.
En d'autres termes, vous n'êtes pas venu là parce que vous avez pris, le métro pour venir et vous installer ici. Vous n'êtes pas assis à cette table parce que vos gens se sont pliées de manière à ce que vous puissiez vous asseoir. Non, vous êtes venu ici parce que vous aviez l'intention de venir et parce que vous avez répondu favorablement à la demande qu'on vous avait faite de venir jouer le jeu du baccalauréat dans les nouveaux chemins de la connaissance.
Voilà.
Donc c'est le registre de l'intention qui l'emporte ici, sur le seul addition ou juxtaposition des causes efficientes.
Tout à fait, exactement. Hein. C'est l'intention et le fait de la continuité de cette intentionnalité dans l'action qui la distingue bien de l'expérience que nous avons du rêve, où là nous sommes dans la confusion, nous ne maîtrisons pas nos actions. Alors, il faut maintenant passer aux critiques et aux transitions.
Juste un point, pourquoi passer aux critiques ? On passe aux critiques parce que vous, dans la première partie, vous devez creuser suffisamment les termes du sujet pour en venir à la nécessité d'une autre partie, en vérité.
Alors, c'est ce qu'on appelle la radicalisation de la thèse. On essaie, si vous voulez, de montrer quelles vont être les impasses auxquelles nous en arrivons au terme de cette démonstration. Alors, la critique et les transitions sont très importantes. Elles sont souvent oubliées d'ailleurs par les candidats le jour du baccalauréat ou même dans les dissertations durant l'année. Donc, je crois que c'est important de bien les travailler.
Ce qui donne aux dissertations quelque chose d'un peu juxtaposé du coup et artificiel.
Voilà exactement, on passe de la première à la seconde partie. Comme si dans une discussion, vous voyez, on passait de la thèse A à la thèse, à la thèse opposée sans crier gare, sans comprendre justement comment on passe de l'un à l'autre. Donc ça, pour le candidat, c'est très important de travailler cette fameuse transition. Et puis ces transitions, elles me permettent déjà de comprendre un petit peu et de préparer mon correcteur, mon juge, à ce qui va suivre, et donc de comprendre le cheminement de ma pensée. Alors je reviendrai d'abord, premier point, bien sûr mon expérience. Sur le rêve se caractérise bien par l'illusion de réalité qu'il suscite. Ça, c'est mon premier point.
On est toujours ici dans la première partie.
Toujours dans la première partie. Je crois fermement en ce que je rêve, et il arrive aussi d'ailleurs à l'état supposé de veille que je pense que je suis en train de rêver. Et puis après plusieurs années d'ailleurs, je peux croire avoir vécu ce qui n'était en fait qu'un rêve. Je peux confondre, vous voyez, le souvenir réel d'un événement réel passé et le rêve. Donc vous voyez, l'expérience finalement est bien celle de l'illusion et de la confusion. Alors, puis-je être certain finalement que je ne suis pas en train de rêver maintenant ? Deuxième critique qui va me faire office de transition, comment définir la réalité ? On est allé un petit peu rapidement, on est allé trop rapidement dans cette opposition et cette réduction finalement de la réalité comme étant une nature purement physique, une réalité purement matérielle. Bon. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer différentes dimensions au réel, différentes dimensions inhérentes à la réalité ? Avec différents ordres, différentes dimensions, une dimension matérielle, mais aussi une dimension spirituelle, qui intégrerait à ce moment-là les rêves. Bon. C'est ce vers quoi, progressivement, on va tendre. On va revenir, vous voyez, donc sur cette définition, finalement, de la réalité, pour intégrer les rêves et pour, bien sûr, aller vers la différence donc, de degré.
Donc, à partir de ces deux objections que vous vous faites à vous-même, vous pensez contre vous-même, donc c'est le travail d'un candidat qui doit savoir se faire à lui-même les objections qui pourraient venir d'ailleurs, et c'est la grande vertu de la philosophie de façon générale, l'illusion de la réalité telle que les rêves la comportent, la possibilité d'une confusion rétrospective, de prendre un rêve pour un souvenir pour un rêve, et donc de se demander si du coup on n'est pas en train de rêver nous-mêmes, et la valeur spirituelle de la réalité, tout ça sont des éléments qui vont justifier que vous infléchissiez votre propos dans une deuxième partie. Est-ce qu'on pourrait, c'est une suggestion, y ajouter un troisième qui serait de dire qu'au fond, qu'on rêve ou pas, le rêve, que le rêve fasse ou non, plus exactement, que le rêve soit ou non distinguable, entre guillemets, de la réalité, le rêve en fait partie. La réalité implique aussi les rêves qu'elle suscite, Guillaume Durand.
La réalité implique aussi les rêves qu'elle suscite, et puis oui, tout à fait, et puis la réalité va être aussi la réalisation de certains de nos rêves. On va pouvoir réaliser certains de nos rêves. Donc on voit bien que la distinction, l'opposition radicale ne tient pas. I was sleeping, gently napping, when I heard the phone. Who is on the other end talking, am I even home? Did you see what she did to him, did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Oh my, and what shall we wear? Oh my, and who really cares? Just a New York conversation, gossip all of the time. Did you hear who did what to whom? Happens all the time. Who has touched and who has dabbled here in the city of shows? Openings, closings, bed repartee, everybody knows. Oh, how sad, and why do we call?
Oh, I'm glad to hear from you all. I am calling, yes, I'm calling just to speak to you. For I know this night will kill me if I can't be with you. If I can't be with you.
Géniale chanson de Lou Reed pour ponctuer cette dissertation en votre compagnie, Guillaume Durand. Une conversation au téléphone et Lou Reed sur son canapé ne sait pas trop, à force de répéter, de dire les mêmes choses, d'être comme une New-Yorkaise qui partage ses potins, ne sait pas trop s'il est en train de rêver ou s'il est sorti de sa sieste ou s'il s'y trouve encore. On continue avec vous cette dissertation. Peut-on distinguer les rêves de la réalité? La première partie est faite, en un sens faite et défaite, puisqu'après cette distinction radicale, vous êtes revenu dessus en montrant qu'on pouvait avoir l'illusion de la réalité, qu'on pouvait confondre le rêve et le souvenir, et qu'enfin la réalité elle-même était spirituelle, ce qui justifie qu'on en vienne à une deuxième partie. Donc, quel serait le propos, l'angle d'attaque, du coup?
La deuxième partie, je vais essayer de montrer que la distinction est finalement très difficile, voire même qu'elle est impossible pour l'homme, en tout cas. Il est possible et tout à fait probable que je sois actuellement en train de rêver, et que vous ne soyez, Raphaël Enthoven, que le produit de mon esprit vagabond. Je vais donc essayer de montrer que le monde, après tout, comme le disait Deleuze, peut-être n'est qu'un mauvais film. Alors d'abord, nos critères de distinction théoriques, pratiques, ne sont pas fiables. Les objets, les personnes rencontrées, les lieux appartiennent indifféremment aux rêves et à la réalité. Nos rêves ne sont pas si extravagants et si incohérents. Nous rêvons de personnes existantes, d'actions réalisables. Ensuite, les rêves et la réalité renvoient à des expériences similaires. Vous savez, quand vous rêvez, eh bien, dans les rêves comme dans la réalité, j'ai différentes sensations visuelles, olfactives, et je ressens des plaisirs, des douleurs. J'éprouve aussi des chagrins, des joies, des tristesses. C'est ce que soutient d'abord d'ailleurs Descartes au début de la première méditation. Combien de fois m'est-il arrivé de songer la nuit que j'étais en ce lieu, que j'étais habillé, que j'étais auprès du feu, quoique je fusse tout nu dedans mon lit, etc., etc.
Il me semble bien à présent que ce n'est point avec des yeux endormis que je regarde ce papier, que cette tête que je remue n'est point assoupie, que c'est avec dessein et de propos délibérés que j'étends cette main et que je la sens. Ce qui arrive dans le sommeil ne semble point si clair ni si distinct que tout ceci. Première méditation. À lire en terminale.
À lire en terminale, bien sûr, et à lire comme une enquête policière. Ouais. Les méditations
comme
métaphysiques.
Comme une odyssée, enfin, comme on veut.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est finalement la question des méditations métaphysiques. Enfin, une des questions fondamentales, c'est le point de départ, c'est de quoi puis-je être certain et puis-je prouver qu'il existe quelque chose d'autre que moi, qu'il existe un monde extérieur, une altérité. Bon, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, l'expérience d'ailleurs donc de cette illusion, de laquelle donc, je pars ici, dans le film Inception, les hommes qui voyagent de rêve en rêve, finissent d'ailleurs par ne plus savoir, c'est une des thèses du film finalement, finissent par errer dans les limbes des rêves, ne savent plus justement faire la distinction.
Ce qu'ils appellent les limbes d'ailleurs, justement.
Ce qu'ils appellent les limbes, exactement. Et puis bon, cette fin où le personnage joué par Leonardo DiCaprio va rechercher... celui qui va l'aider à la fin du film, justement dans les limbes, qui va le rechercher au fond d'un rêve. Bon. En outre, autre argument, cette réalité que nous avions définie comme une, objective, la même pour tous, elle est introuvable dans notre expérience. Vous vous rappelez que tout à l'heure, on a dit que les rêves étaient des objets privés, la réalité était composée d'objets publics. Bon. Mais de quoi ai-je l'expérience? Finalement, mes expériences sensibles, comme le montre Russell dans Les problèmes de philosophie, et je recommande vraiment aux candidats de terminale, moi c'est vraiment le livre qui m'a éclairé, qui m'a fait aimer la philosophie, Les problèmes de philosophie, en tout cas les trois premiers chapitres, sont, si vous voulez, nos expériences sensibles sont comme les rêves, multiples, subjectives, et souvent, le plus souvent, incohérentes. Nous pensons qu'il y a un même, nous posons qu'il y a, par exemple ici, une même table, un même micro que tout le monde voit, etc. Mais en fait, montre Russell, nos expériences concrète que nous faisons de ces objets, eh bien, concernant sa couleur, la texture, la forme, le son qu'il rend, etc., eh bien, varie dans le temps chez un même individu ou selon les individus. Donc finalement, nous n'avons pas l'expérience d'une réalité qui soit la même pour toutes, mais nous avons seulement l'expérience d'objets privés, comme le sont nos rêves.
Alors, vous recommandez Russell, on pourrait recommander de regarder Matrix aussi, ce qui peut marcher, puisque Morpheus, qui guide Neo vers le monde réel, lui demande à un moment, lui dit « Comment définis-tu le réel, la réalité ? Si la réalité, tu la définis par ce que tu touches, ce que tu sens, ce que tu vois, ce ne sont jamais que des impulsions cérébrales. Et en d'autres termes, rien n'empêche un esprit omniscient de te mettre dans le cerveau la certitude que tu es en train de toucher quelque chose, de te mettre l'impression correspondante à la certitude que tu es en train de toucher quelque chose. De sorte que, au fond, puisque ce que tu vis, tu ne fais jamais que le percevoir, qu'est-ce qui nous empêche de te faire croire que tu le perçois effectivement et que donc tu le vis ?
Tout à fait. Ou ce qu'on pourrait aussi retrouver dans la fameuse hypothèse, vous savez, du malin génie chez Descartes, et j'y viendrai tout à l'heure. Est-ce que je peux être certain que je ne suis pas en train d'être manipulé par une puissance surnaturelle ? Alors dans Matrix, ce sont les machines. La réponse est finalement... Alors on va y revenir justement à cette réponse. Alors finalement, est-ce qu'on peut, vous voyez, prouver qu'il existe une réalité extérieure ? Puis-je prouver l'existence d'un monde extérieur et objectif ? C'est le problème des méditations, c'est la question que pose Descartes, je crois. De quoi pouvons-nous être certains ? Et Descartes va examiner alors des candidats à l'existence qu'il soumet à l'épreuve du doute méthodique. Et la force de l'argument, je crois, cartésien, c'est uniquement en moi-même que je dois rechercher la preuve de l'existence d'une altérité.
C'est ce qu'il appelle l'inspection de l'esprit.
Tout à fait. Vous voyez bien que pour prouver votre existence, je ne peux pas faire appel à votre témoignage. Je ne peux pas. Le fait que vous me parliez, vous me posiez des questions, ne me prouve pas. Je ne peux pas faire appel à votre existence puisque c'est ce qu'il s'agit de prouver. Je commettrai une pétition de principe. Donc finalement, je vais donc chercher dans mes idées pour savoir si il y aurait une idée ou deux qui serait la marque de l'existence d'une altérité, une idée que je n'aurais pas pu moi-même concevoir, tout seul. Bon. Alors, vous savez que la réponse cartésienne dans les méditations, ce sont les preuves de l'existence de Dieu, l'idée d'infini, l'idée de perfection.
Toutes idées qui ne peuvent pas venir de moi.
Qui ne peuvent pas venir de moi. Alors, je n'ai pas le temps, bien entendu, de venir ici à la réfutation de ces preuves de l'existence de Dieu, mais dans cette seconde partie, je dirais que ces preuves de l'existence de Dieu ne vont pas me convaincre. Qu'elles ne sont pas irréfutables, qu'on pourrait de toute façon les critiquer. Et je tiendrai ici donc avec les sceptiques, sauf donc à admettre qu'on puisse prouver l'existence de Dieu, qu'une telle preuve, finalement, est impossible à fournir, que je ne peux pas trouver en moi-même, donc, la preuve qu'il existe quelque chose d'autre que moi, que tout peut être, donc, illusion, issue de mon esprit.
En d'autres termes, Descartes a besoin de Dieu pour garantir la vérité ou la véracité de ce dont il a l'idée claire et distincte.
Tout à fait.
Pour être certain de l'existence de ce dont il a l'idée claire et distincte, s'il a besoin de Dieu et d'un Dieu qui, existant ou étant parfait, ne peut pas être trompeur. Et donc ne peut pas le tromper, ne peut pas l'induire en erreur. Juste une toute petite objection, il faut qu'on aille vers le terme de cette deuxième partie pour enchaîner ensuite et rendre copie en temps et en heure. Une toute petite objection. Bien sûr, vous n'avez pas les moyens de prouver que je ne suis pas une hallucination de votre esprit. Comme Karamazov ne peut pas prouver qu'il n'est pas... Enfin, la discussion qu'il a avec le diable, où le diable essaie de lui prouver qu'il n'est pas une hallucination de son esprit, ou lui-même essaie de prouver à sa propre hallucination que le diable est une hallucination. Bon, très bien, mais sans aller jusqu'à l'hallucination... au fond, ce que nous vivons là, sans être un rêve, ça peut être une mise en scène. Et d'une certaine manière, c'est une mise en scène. Nous mettons en scène l'épreuve du baccalauréat. On pourrait par exemple imaginer que hors micro, on se tutoie. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a fait connaissance ce matin. Mais on pourrait tout à fait imaginer des choses comme ça, c'est-à-dire autant de choses qui sont travesties à dessein, de manière à produire une mise en scène. Sans être une hallucination, je pourrais tout simplement être un acteur qui joue ici au prof de philo face à vous.
Oui, mais nous ne serions pas pour autant dans un rêve. Et la mise en scène n'est pas une sortie de la réalité. Il y a bien, vous voyez, dans la mise en scène, il y a des choses, par exemple, dans la mise en scène qui échappent à mon esprit. Là, vous voyez bien, je ne maîtrise pas totalement la situation devant vous. Donc, si on est dans un parfait solipsisme, hein, si rien d'autre n'existe que ce que produit ma conscience, il faudra expliquer à ce moment-là qu'il y ait des êtres à l'intérieur de ma conscience qui puissent lui échapper, qui soient imprévisibles, qui... Alors ça me semble être la limite, mais c'est tout à fait effectivement une voie possible.
Alors,
c'est une voie possible.
Allons-y, il nous reste peu de temps et c'est de ma faute.
Alors, non. Alors donc critique et transition, si vous le voulez bien. D'abord un accord commun. Reconnaissons le fait qu'il y a un accord commun. Nous nous entendons avec les autres, mais bon, dont je n'ai pas... Le problème, c'est de montrer leur existence, mais pour distinguer finalement de ce qui relève des simples rêves et ce qui est commun à tous. Est-ce que, si vous voulez, la thèse solipsiste n'est pas en définitive celle que Schopenhauer définissait comme étant celle d'un fou enfermé dans un blocus imprenable.
Voilà, imprenable, ouais.
Une forteresse imprenable. Est-ce que je ne suis pas fou? Bon. Deuxièmement, si tout n'est que rêve, et ça me semble être un argument plus fort.
Là, on est toujours dans la deuxième partie.
Critique et transition. Là, il y a un argument qui me semble plus fort. Si tout n'est que rêve, si le monde entier n'est que le seul produit de mon esprit, est-ce que je ne suis pas en train de surestimer les capacités de mon esprit et celles de mon imagination? Est-ce que mon esprit est capable de créer un monde si complexe, avec tant de continuité, tant de richesse, le fait qu'il y ait, par exemple, autant de, je ne sais pas moi, de films, et qu'entre les films, vous voyez les films, je ne sais pas, Saw, par exemple, il y ait des séries, Saw 1, Saw 2, etc., avec des acteurs. Est-ce que mon esprit a la capacité de créer tout cela par lui-même.
Génial, parce que ça veut dire qu'au fond, le type qui se dit tout est vanité, tout n'est qu'une mise en scène, tout n'est qu'un rêve, tout n'est qu'un songe, au fond, celui-là est mégalo.
Oui, exactement. Tout à fait. Et puis le troisième argument, il faut admettre, si vous voulez, des caractères communs, mais aussi des différences. Et c'est là, je vais revenir finalement en troisième partie, donc là je vais aller assez vite, sur la différence entre la réalité et les rêves, et la définition de la réalité. Cette définition de la réalité qu'il va falloir interroger à nouveau en allant vers donc la synthèse, c'est-à-dire la recherche d'une unité et d'une complémentarité entre les rêves et la réalité.
À partir de là, donc, on peut enchaîner sur une troisième partie.
Donc, on enchaîne.
Qui reviendrait donc, alors, à défaut, donc, en somme, hein, de pouvoir récuser la distinction entre le rêve et la réalité, à défaut également de pouvoir l'affirmer, finalement, vous changez de registre et vous allez passer dans un registre qui est celui de l'éthique ou de la morale, c'est-à-dire de la nécessité ou non de le faire plus que de sa possibilité.
Exactement. Alors, d'abord, un choix, je dirais, pragmatique. Vous voyez, je crois que je commencerai par là, pragmatique, éthique, morale. Un choix pragmatique, je crois que, en début de cette troisième partie, on peut soutenir que l'hypothèse selon laquelle tout n'est que rêve n'est pas absurde. Qu'on pourrait tout à fait soutenir que là, je suis en train de rêver, que tout cela n'est qu'illusion.
En tout cas, on ne pourrait pas vous prouver le contraire.
Voilà. Mais en même temps, cette hypothèse est beaucoup moins simple qu'une autre hypothèse, celle selon laquelle je ne suis pas en train de rêver maintenant et qu'il y a d'autres personnes, un monde extérieur, etc., indépendant de moi, etc. C'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle, l'hypothèse de la distinction, elle est la plus simple, est un gain en simplicité. Et il me semble alors que, donc c'est un peu la thèse pragmatique que je défendrai ici, que, vous voyez, une idée est vraie finalement parce qu'elle est utile. Bon, là je résume très rapidement, hein, très brièvement, mais...
Si on a tort de distinguer le rêve de la réalité, on a toutes les raisons de le faire.
Voilà, exactement. On a toutes les raisons de le faire et peut-être on a plus de raisons de le faire. Vous voyez, c'est très, très complexe de penser que lorsque vous me parlez, c'est mon esprit qui vous fait avoir ces paroles. Bon, je pense que voilà, je suis étonné par vos questions, interpellé, etc. Et c'est beaucoup plus simple de penser que vous êtes un être indépendant de moi, doué de volonté, d'intelligence, etc. etc.
Je vous remercie.
Ensuite, je pense que, après donc un choix pragmatique, je pense que c'est un choix éthique que cette distinction du rêve et de la réalité. Il est donc légitime de les distinguer. L'hypothèse de la distinction est un choix éthique. Pensez par exemple au no-life, à ceux qui font justement le choix, alors bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le rêve, ici sur le virtuel, qui font le choix du virtuel. Hein. Ou pensez dans Inception à ces hommes qui font le choix de ne vivre plus que dans leur rêve. Bon. On peut s'en satisfaire, mais il me semble que finalement, progressivement, on va souffrir de cela. C'est-à-dire qu'un monde où on ne vivrait que de ses rêves ou que dans ses rêves, ce n'aurait pas un monde souhaitable. Et que finalement, ça va nous conduire à la souffrance et au malheur.
Pas plus qu'un monde, d'ailleurs, qui se contenterait de ne pas rêver.
Exactement.
Pour les mêmes raisons, en vérité.
Pour les mêmes
passer
raisons.
Passer la vie sans rêver est aussi difficile que de passer la vie loin du réel.
Exactement. Et là, vous êtes effectivement en plein dans la synthèse, hein, en essayant de montrer à quel point on a besoin de ces deux ordres pour vivre, en fait, pour vivre pleinement. Hein. Donc là, on est dans l'exercice de ce qu'on appelle la synthèse. Hein. Alors, on pourrait aussi penser au sceptique absolu, cohérent avec lui-même, qui défend qu'on doit absolument de douter de tout. Et je pense en plus en particulier à Cratyle, rapporte Aristote, qui à la fin de sa vie, doutant absolument de tout, je cite Aristote, en venait finalement à penser qu'il ne faut rien dire, hein, et il se contentait de remuer le doigt. Bon, si on ne croit plus en rien, on finit par ne remuer plus que le petit doigt, voire ne plus rien remuer du tout. Bon. Est-ce que c'est enviable ? Il me semble que non, et donc le choix éthique recommande ici la distinction. En fait,
donc,
croire...
Donc, oui. Simplicité, ça, l'argument numéro un, c'est la simplicité ou le pragmatisme. L'argument numéro deux, c'est la facilité. C'est plus facile de vivre dans un monde réel que dans un monde onirique. Et troisièmement, action, activité, engagement, en vérité.
Tout à fait, exactement. Croire en ce monde, vous voyez que finalement, croire en la réalité, c'est en définitive ici une croyance, hein, c'est bien une croyance, ce n'est pas une vérité, c'est une croyance, mais une croyance choisie et réfléchie, hein, une croyance consciente d'elle-même. Hein, voilà ce qu'on est en train de réhabiliter finalement, de réhabiliter une croyance positive. Vous voyez, condition première et positive de l'action, comme vous l'avez dit, mais aussi du vivre ensemble. Hein. Et là, on pourrait citer, hein, mais on n'a pas le temps, cette idée, le fait moderne, c'est que nous ne croyons plus en ce monde, hein, écrit Deleuze dans L'Image-Temps. Et il faut redonner foi en ce monde. Hein. Il faut renouer le lien avec le monde. Hein. Et ce lien est l'objet d'une croyance, écrit Gilles Deleuze. Enfin, deuxièmement, je vous disais, c'est l'idée que c'est un choix finalement moral. Bon. Alors, pour un peu simplifier, je viendrai sur la distinction ici maintenant des rêves comme désirs idéaux, hein, à l'état de sommeil, mais aussi à l'état de veille, donc que nous voudrions, un désir que je veux absolument voir se réaliser. Là, la question est de savoir quels rêves doivent passer dans le réel. Quels rêves faut-il aussi exclure de cette réalité ? Le fameux discours « I have a dream » de Martin Luther King en 1963, eh bien, apparaît comme légitime d'un point de vue moral. Celui d'Hitler dans Mein Kampf, il s'est réalisé, mais d'un point de vue moral, on voit bien que, bien entendu, eh bien, on aurait voulu à tout prix, finalement, qu'il ne passe jamais dans la réalité. Donc, en définitive, la distinction des rêves et de la réalité dépend de nous. Et elle relève, il nous appartient de choisir les rêves à réaliser, les rêves à exclure. Hein, et donc, elle relève d'un choix éthique, moral et enfin politique. Enfin, pour finir, il aurait fallu bien sûr développer cette définition de la réalité qui intégrerait ici les rêves comme une des dimensions. Hein. On aurait donc une réalité qui intégrerait au moins deux ordres, hein, une réalité spirituelle dans laquelle on mettrait les rêves et une réalité physique, matérielle, comme un second ordre.
Ou bien une réalité composée des tentatives que nous faisons de lui échapper aussi.
Voilà, exactement. Et une réalité, je pense, aussi imprévisible. Je finirai pas, vous voyez, sur l'idée que le réel est plus imprévisible que les désirs et les rêves. Je crois que nous sommes à la fois étonnés, autant étonnés, de ce qui se passe dans le réel physique, dans la nature physique, que de ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Nous sommes étonnés par nos désirs, par nos idées, et nous sommes aussi étonnés, et c'est imprévisible, par nos rêves.
Le plan que vous proposez est tellement clair que la conclusion va d'elle-même, j'imagine. Dites-moi si je trahis votre pensée en disant que vous allez conclure sur l'impossibilité de les distinguer et la nécessité de le faire.
Exactement.
Juste un tout petit regret, puisqu'on arrive au terme de ça, c'est l'anglicisme réalisé. En anglais, to realize signifie prendre conscience. En français, réaliser signifie rendre réel. Et au fond, ce même mot se situe à la charnière des deux dimensions du rêve, qui est l'accession à l'identité, le sentiment de son existence, et deuxièmement, la réalité du monde qui nous entoure, Guillaume Durand.
Oui, on aurait pu jouer effectivement sur ce double sens. Effectivement, on ne l'a pas fait, oui.
Voilà, merci infiniment d'être venu nous parler.
Je vous remercie beaucoup.
On sort du rêve en votre compagnie et on renvoie évidemment nos auditeurs au site internet des Nouveaux Chemins de la Connaissance où ils trouveront une bibliographie à peu près exhaustive sur ce sujet. Et je précise que c'est une bibliographie précise. Au paragraphe près, toute cette semaine est faite pour nos auditeurs bacheliers.
Poète assis sur un nuage, et je vois la terre du haut des cieux. Je lis dans les cœurs, je lis sur les visages, je lis dans les yeux, je vois dans les têtes, à la belle fête, oui je vois que chacun rêve, rêve sans trêve, ce sont droits. Le meunier rêve, rêve de pain blanc, le maçon rêve, rêve de ciment, le cocher rêve de l'enchant. Moi je rêve de vos yeux, mon amour, la chatte rêve de souris, le chinois rêve de son riz, le pacha rêve, rêve d'être au lit. Et moi je rêve de vos yeux toujours, et le bon Dieu tout près de moi m'a dit c'est toi qui as raison, c'est toi. Tant mieux pour eux, tant mieux pour toi, c'est merveilleux. Moi je ne sais rêver que d'amour, le fermier rêve de ses bœufs, le marquis rêve des aïeux, l'alouette rêve, rêve de ciel bleu. Et moi je rêve de vos yeux toujours, et toi tu le rêves, et lui il rêve. Et moi je rêve de vos yeux, mon amour. Et moi je rêve de vos yeux, mon amour.
10h50 sur France Culture, on retrouve tout de suite le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rhett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
On reste dans le rêve avec vous.
Eh bien oui, pour continuer la réflexion sur le rêve que vous venez de mener avec votre invité, je vous propose de découvrir un texte de Freud qui vient d'être retraduit et qui est absolument accessible à tous les élèves de terminale et qui permet de comprendre en quoi le rêve, justement, n'est pas toujours le contraire de la réalité. Bonjour Olivier Manoni.
Bonjour.
C'est vous qui avez traduit, qui proposez une traduction inédite, donc du rêve de l'injection faite à Irma, qui est un texte de Freud, qui était inédit jusque-là, en tout cas dans cette traduction-là, et qui est très important, puisqu'on ne le sait pas forcément, mais c'est le rêve, le texte en fait, qui est fondateur de l'interprétation des rêves de Freud plus tard, et c'est le premier rêve où Freud s'auto-analyse.
Tout à fait. Ce qui est extrêmement dangereux, il le dit lui-même, il prend des risques énormes en faisant ce travail. Il explique dans son texte qu'il ne veut pas présenter l'interprétation d'autres rêves pour ne pas avoir la pollution en quelque sorte du travail psychanalytique qu'il peut faire sur d'autres personnes, et notamment sur ses patients. Et donc il se prend lui-même comme cobaye, tout en précisant qu'il ne va pas tout dire, parce qu'on est quand même dans un jeu aussi avec le lecteur. Ce texte qui est ancien, puisqu'il date de 1905 pour la première version, 1909 pour la deuxième, va en fait fonder l'interprétation des rêves et une bonne partie du travail qu'il va mener après sur les grands principes qu'il va développer là-dessus.
Alors le rêve, rappelons-le en quelques mots, hein, peut-être Freud rêve donc de cette Irma qui est une patiente à lui. Et enfin, je vais vous le laisser le raconter parce que vous ferez bien
le croire. Qui est une patiente et qui n'est pas une patiente, puisque en fait c'est un déplacement, hein, c'est le principe du rêve selon Freud, d'une de ses autres patientes, mais aussi d'une autre dame qu'il connaît, qu'il mélange entre deux personnages, où Freud rêve d'une certaine manière qu'il a fait une erreur médicale, mais c'est pas vraiment une erreur. Tout le rêve laisse entendre qu'il s'est trompé de diagnostic, trompé sur un certain nombre de choses. Il ausculte cette patiente sans bien comprendre ce qu'elle a. Elle semble avoir des phénomènes psychiques et somatiques à la fois, ce qui lui rappelle effectivement sa patiente qu'il a tenté de soigner, mais vainement, pour des problèmes d'hystérie. Et il a le plus grand mal à reconstituer tout cela. Et dans cette espèce de fouillis extraordinaire qu'est le rêve, et un fouillis pourtant très structuré, il va chercher lui-même des pistes d'explication. Alors, ce qu'il faut dire simplement pour bien comprendre ce texte, c'est que, grosso modo, avant Freud, qui a été le premier, non pas à l'exprimer, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant eux, mais en tout cas le structurer dans une théorie claire, Freud se démarque de deux types d'analyse du rêve. L'analyse prémonitoire et l'analyse sous forme de signes. C'est-à-dire que pour lui, le rêve n'est pas quelque chose qui annonce quelque chose, ni quelque chose qui symbolise. C'est quelque chose qui veut dire, qui littéralement veut dire...
Qui exprime un sens.
Qui exprime un sens ou des sens, et selon lui, il y a une possibilité de reconstituer ces sens, qui ne sont jamais des sens premiers. C'est là où ça devient passionnant, parce que ce texte, c'est un texte de psychanalyse assez facile à lire, mais c'est aussi une enquête policière, c'est-à-dire qu'il a des indices, qu'il va chercher dans sa propre tête, ce qui est assez, qui est extraordinairement moderne comme idée, et qu'il va tenter de reconstituer pour trouver des explications. Il dit lui-même qu'il ne les trouve pas toutes, qu'il ne les a pas. Ça fonctionne sous forme de suppositions. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Donc c'est un texte qui est véritablement... C'est un tout petit roman policier.
Voilà, et vous parlez de plusieurs interprétations, plusieurs niveaux de sens. Et pourquoi? Parce que ça, il faut le dire, c'est parce que Freud montre bien que le sens n'est pas global. Le rêve n'a pas une seule signification, même si là je pense que vous me reprendrez, sens et signification ne sont pas synonymes, certainement pas dans le domaine de la psychanalyse, mais il montre l'intérêt de vraiment fragmenter le rêve et de s'arrêter sur chaque association d'idées de la part de celui qui rêve.
Tout à fait. Il conclut ce paragraphe en fait de l'interprétation des rêves en disant que le rêve est l'expression d'un souhait, ce qui est pratiquement un axiome mathématique après chez Freud. Et en fait, ce souhait, il va partir à sa recherche et tenter de comprendre, mais ce souhait, il est multiple, c'est un souhait à multiples facettes. C'est celui de ne pas s'être trompé sur cette patiente, qui en fait s'appelait Emma et pas Irma. C'est aussi le fait de ne pas avoir tué indirectement un de ses amis en lui conseillant vivement la cocaïne dont il était un adepte. Et son ami s'était fait des injections de cocaïne, en est vraisemblablement mort. C'est aussi un rêve qui trahit l'angoisse du médecin face à l'erreur médicale. Et puis qui mélange des personnages qu'il connaît, qu'il mélange. Par exemple, vous avez un docteur qui boite, c'est en fait une autre personne de sa connaissance, etc. Et il reconstitue tout ça pour tenter de donner un sens. Je précise que le sens complet, il n'arrive jamais lui-même à le donner. C'est-à-dire qu'il voit bien que son rêve a de multiples sens. D'un côté, il y affirme sa connaissance médicale. De l'autre côté, il voit bien lui-même qu'il essaie en fait de se disculper d'un certain nombre de choses.
Si bien que l'analyse ou l'interprétation d'un rêve est un véritable travail de traduction d'un langage en un autre. Et là, je m'adresse au traducteur en vous, hein, Olivier Mannoni.
Tout à fait. C'est d'autant plus intéressant que Freud lui-même parle de la traduction. Et il parle, et il en parle là, mais il en parle aussi dans ses nombreux courriers, aussi bien avec sa fille qu'avec Fliss, par exemple. Il parle de la difficulté de traduire un texte sur l'interprétation du rêve. Il y a un exemple tout simple qui est le terme Lösung. Alors on a la chance en français, Lösung c'est une solution, mais dans les deux sens, c'est-à-dire c'est à la fois une solution chimique, l'injection, et une solution à une énigme. Et il travaille sur les deux à la fois. Et d'une certaine manière, on peut dire aussi, il ne le dit pas aussi explicitement que ça, que l'injection qu'il fait à Irma, c'est une solution qu'il lui injecte pour trouver la solution. Voilà. Et là, évidemment, le travail de traduction sur ce type de texte est absolument passionnant. Parce que, d'une certaine manière, il nous emmène dans le travail de détective que mène Freud sur lui-même. Son travail de détective, c'est les indices dont il dispose, ce sont les mots que lui-même traduit, transpose de la réalité vers le rêve ou du rêve vers la réalité, qu'il exprime en mots allemands, et qu'évidemment, quand on traduit, il faut refaire passer de l'autre côté, ce qui pose un nombre de problèmes tout à fait extraordinaires, ce qui justifie aussi qu'on retraduise les textes de Freud comme on le fait en ce moment. Parce que le travail de retraduction qu'on peut faire, et le mien vise à revenir au texte de Freud en toute liberté, c'est-à-dire en revenant à la langue essentiellement, beaucoup plus qu'au corpus de termes, ce travail-là est amplement justifié par la nature même du texte de Freud, qui est un travail essentiellement littéraire.
Merci beaucoup Olivier Mannoni. Donc je rappelle que vous êtes le traducteur de ce texte qu'on trouve aux éditions Payot dans la petite bibliothèque Payot qui s'appelle Le rêve de l'injection faite à Irma. C'est par Sigmund Freud évidemment, vous l'aurez compris. Et signalons-le, c'est tout à fait accessible à un élève de terminale, même fort utile je pense, même comme dans un exemple de dissertation, dans un sujet comme sur le rêve et la réalité comme Raphaël Antoven vient de le traiter juste avant. Merci Olivier Mannoni.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin des nouveaux chemins de la connaissance pour aujourd'hui. On se retrouve demain de 10h à 11h comme tous les jours sur France Culture pour la suite de cette semaine en partenariat avec Philosophie Magazine, où de courageux professeurs de terminale prennent le risque de subir eux-mêmes l'épreuve du bac philo. Une émission que vous pourrez retrouver comme toutes les autres sur Internet, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous attendent le téléchargement des émissions de la semaine, mais également l'écoute en ligne de toutes les émissions précédentes, parmi lesquelles la première semaine de dissertation du bac philo qu'on avait enregistrée autour des vacances de Pâques, ainsi qu'une bibliographie très précieuse où vous trouverez, outre les plans de dissertation de nos candidats professeurs, une bibliographie au paragraphe près, chers auditeurs, destinée à vous faciliter la tâche dans vos révisions, à vous faire gagner du temps. Demain, on continuera donc cette semaine de révision en compagnie de Sébastien Gury qui enseigne au lycée français, au lycée Vauban de Luxembourg, et qui viendra, accompagné de toute sa classe, pour réfléchir sur la question de savoir si l'action politique doit ou non être guidée par la connaissance de l'histoire. 10h59 sur France Culture, dans un instant Culture Monde, Florian Delorme.